Bonjour et bienvenue sur Parole d'Humanitaire, le podcast fait par l'humanitaire pour les travailleurs et travailleuses humanitaires. Je suis Asma, humanitaire spécialisée en projet d'aide au développement et à l'origine de cette initiative. Dans ce podcast, je donnerai la parole aux acteurs et actrices de terrain pour décrypter les nombreux enjeux de l'humanitaire et de la solidarité internationale, mais aussi pour découvrir les différents domaines d'intervention. Au fil des épisodes, je mettrai également la lumière sur les environnements dans lesquels ils sont amenés à travailler et les défis auxquels ils sont quotidiennement confrontés grâce à des témoignages sans filtre. En bonus, vous aurez la possibilité de découvrir différents métiers liés à ces domaines. Au programme de ce podcast, découverte, partage de connaissances et retour d'expérience. Prêt à passer les prochaines minutes ensemble? C'est parti! Bonjour Wahid, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation pour participer au podcast Parole d'Humanitaire. Mais avant d'entrer un peu plus dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter et nous en dire plus sur ton domaine d'expertise et ton expérience?
Bonjour Asma, tout le plaisir pour moi et je te remercie pour cette belle initiative. Donner la parole aux acteurs humanitaires, je pense que c'est une bonne chose, c'est une nécessité. C'est une manière aussi d'éclairer le grand public sur les questions humanitaires et le contexte dans lequel nous travaillons. C'est une manière aussi de réfléchir mutuellement sur des questions d'intérêt général. Je pense que l'action humanitaire, comme toute action noble de la société, est importante de la partager, la faire partager et réfléchir ensemble sur les questions qui nous touchent tous ensemble. On ne vit pas dans un monde, on ne vit pas d'une manière isolée, nous vivons dans un monde, village, donc tout ce qui se passe dans le monde nous intéresse et je salue en vous cette belle initiative. Pour répondre à votre question, donc, je suis Wahid Abbassi, fondateur président de Dignité Internationale. Dignité Internationale, c'est une ONG humanitaire engagée depuis sa création dans la protection des populations dans les pays d'intervention, les populations vulnérables, touchées par la pauvreté ou aussi touchées par des catastrophes naturelles ou des conflits. Et donc, Dignité Internationale est engagé depuis sa création justement pour répondre aux besoins de ces populations, mais aussi défendre le droit international humanitaire. Parcours s'est construit donc, j'allais dire, à la croisée de l'action humanitaire, du plaidoyer et de l'analyse géopolitique. Si je peux résumer les trois dimensions qui ont influencé mon engagement globalement. Depuis plusieurs années, travaille sur les dynamiques de conflit, l'action humanitaire, la protection des civils et les stratégies des plaidoyers. Parce que tout simplement, le plaidoyer, en vérité, c'est le summum, l'étape ultime, supérieure, après tout un travail de terrain, tout un travail d'analyse, tout un travail opérationnel sur le terrain. Donc, nous faisons le plaidoyer en connaissance de cause. Et donc, cette stratégie de plaidoyer se fait auprès des décideurs nationaux et internationaux, individuellement ou en partenariat avec nos confrères, les autres acteurs humanitaires, ou même avec des acteurs de la société en général. Quand je parle des acteurs, ça peut être politique, médiatique, comme vous, et dans d'autres domaines. Donc je veille à articuler notre action de terrain, donc je parle là de l'action humanitaire, nos missions de protection et notre parole politique, afin de porter une voix indépendante fondée sur les besoins réels des populations.
Merci beaucoup pour cette belle introduction. Et pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, quel est le rôle fondamental des ONG aujourd'hui dans le plaidoyer humanitaire?
Pour moi, le plaidoyer commence, comme je l'ai dit au début, sur le terrain, auprès de ceux qui souffrent dans le silence ou leur cause est médiatisée. Donc, premièrement, les ONG humanitaires ont une fonction essentielle. Premièrement, porter la voix de celles et ceux qui n'ont pas de voix, qui n'ont pas de moyens, en quelque sorte, pour exprimer leurs besoins, leur situation face aux décideurs politiques, économiques et militaires et d'autres. Cela, à mon sens, implique deux missions. Premièrement, documenter, c'est-à-dire recueillir des faits précis, des données fiables et des témoignages établissent les violations subies par les populations, et deuxièmement, interpeller. Et quand je dis interpeller, ça veut dire questionner, faire un travail de sensibilisation, premièrement, d'information et de sensibilisation, et pourquoi pas de pression s'il faut, afin de transformer ces constats en demande politique, juridique ou opérationnelle. Voilà, globalement, si je peux résumer les deux niveaux de travail des ONG humanitaires par rapport à
À ce sujet.
cette mission qui est le plaidoyer. Le plaidoyer humanitaire agit comme un pont entre le terrain et la sphère décisionnelle. C'est normal, parce qu'on ne peut pas être hors sol ou en déconnexion avec la réalité dans laquelle nous souhaitons défendre. Il oblige les acteurs de pouvoir à regarder en face les conséquences de leurs choix. Je donne des exemples. Notre modèle économique a des conséquences, mais considérables, sur l'environnement. Depuis maintenant une décennie, on vit, par exemple, une multiplication des catastrophes naturelles, soit des séismes, soit des cyclones, des inondations, de la sécheresse. Ça, c'est dû à des choix politiques que nous avons, que l'homme, que les gouvernements ont engagés depuis le début du siècle. Et donc, nous interpellons sur la base de ces constats les décideurs à modifier, améliorer leurs choix et leur orientation économique, parce que tout simplement notre planète, notre maison commune, ne supporte plus ces conséquences de pollution et autres. J'ai visité le Bénin où nous avons constaté donc une situation mais dégradée des baleines, des espèces qui vivent dans l'Atlantique, avec la présence d'une quantité mais énorme de plastique, par exemple. Ça demande vraiment une alerte. Les déplacements et tous ces migrants qu'on constate actuellement, c'est dû à des problématiques économiques liées à la sécheresse, liées au conflit. Donc tout ça demande franchement une mobilisation, donc un travail très structuré de la part des acteurs humanitaires. Et si je rajoute un autre exemple, qui pour moi c'est un exemple, j'allais dire un cas important, la dégradation de droit international humanitaire dans plusieurs zones dans le monde, soit au Soudan, mais surtout à Gaza, chose que nous avons travaillé à un autre niveau au sein de Dignité internationale. Par exemple, après un an après la crise à Gaza, nous avons publié avec des experts et des membres de Dignité internationale un rapport sur l'impact de l'effondrement du système médical sur les civils, sur les populations. Et dernièrement, le 2 octobre, nous avons aussi organisé une table ronde animée par des acteurs humanitaires. Cette fois-ci, on voulait qu'elle soit vraiment une table ronde participative, donc avec la participation des acteurs humanitaires ou universitaires ou médiatiques. J'ai reçu le président de Médecins du Monde, Jean-François Corti, Alain Grèche, qui est aussi un homme de médias et universitaire, ancien rédacteur en chef du Monde diplomatique, Madame Grignon, qui est professeure au Sorbonne, spécialiste de droit international humanitaire, Fawzi Ousdik, qui est spécialiste dans le même domaine, et d'autres personnes de l'IRIS. On voulait, à travers cette table ronde, croiser les regards, analyser ensemble, faire le constat et analyser la situation de droit international humanitaire, comment il est appliqué à Gaza, et quelles sont les conséquences, de tout ça. Donc c'est une manière aussi de faire le plaidoyer en groupe, en commun, avec d'autres acteurs, parce que des fois, il y a des sujets qui demande l'implication de demande et qui demande aussi cette manière de faire les choses, cette méthodologie participative qui regroupe un ensemble d'acteurs de la société en France et ailleurs. Donc le plaidoyer humanitaire agit comme un pont entre une passerelle entre le terrain et la sphère décisionnelle. Il oblige les acteurs de pouvoir à regarder ensemble ou en face les conséquences de leur choix, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et ça, on ne peut le faire que à travers un travail très structuré dans le temps, mais aussi d'une manière aussi collective, parce que on doit mener ce travail pour que le plaidoyer, la pression en quelque sorte, la sensibilisation a un impact.
Bah, merci pour cette réponse bien approfondie. Vous avez parlé un peu des différentes missions de Dignité internationale et en tant qu'ONG, comment trouver l'équilibre entre les missions de terrain, les différents programmes que vous pouvez avoir et la nécessité de dénoncer bah, publiquement certaines violences ou certaines injustices?
Au fait, cet équilibre repose à mon sens sur une éthique de responsabilité, une prise de conscience profonde de notre rôle et que tout ce qui se passe dans le monde nous intéresse parce que d'une manière directe ou indirecte va impacter notre vie, va impacter notre, comme je l'ai dit au début, notre maison commune qui est la planète, va impacter les relations internationales, les relations humaines. On voit dernièrement une multiplication, une multitude de conflits, comme si le monde revient à l'époque de la veille de Première Guerre mondiale. Ça veut dire la violence est devenue l'élément le plus important dans les relations internationales. On constate aussi que le monde, a changé de paradigme. C'est plus comme avant. Les paradigmes sont là, qui s'installent progressivement et d'une manière des fois même directe et impactante. Comme le dérèglement climatique, comme la transition énergétique, l'importance de passer à d'autres, j'allais dire, d'autres modes économiques basés sur l'énergie propre, cette transition, j'allais dire, végétale, qui est là, qui est installée aussi dans notre vie quotidiennement, ce mode de voyage ou de déplacement ou de mobilité d'un pays à un autre se multiplie et on voit les conséquences. Et donc, j'ai parlé de l'éthique de responsabilité. Dans une ONG comme Dignité internationale, nous évoluons systématiquement via l'impact d'une prise de parole sur notre accès humanitaire, bien sûr, parce que c'est notre mission principale, la sécurité des équipes et des communautés. La pertinence d'une démarche discrète ou publique, ça dépend le cas, parce que c'est vrai, c'est bien de témoigner, mais témoigner pour le témoignage, c'est pas ça le but en soi. Le témoignage, c'est un outil, c'est un moyen. Et donc, on peut réaliser des objectifs dans une médiation discrète aussi, parce que l'objectif, c'est de changer la réalité et pas systématiquement la dénoncer. Et donc nous adoptons souvent une approche graduée, hein. D'abord le dialogue direct et confidentiel, puis si l'impasse persiste, la dénonciation publique basée sur des faits bien argumentés et solides, car notre objectif n'est jamais la polémique, ni la déstabilisation, comme je l'ai dit, mais la protection des civils en premier lieu, la sensibilisation des décideurs, parce que des fois, nous faisons des mauvais choix, mais ne sommes pas conscients des impacts, ou parce que nous sommes sous pression de d'autres lobbies, par exemple, etc. Donc la parole publique n'est un outil que lorsqu'elle permet d'avancer ses objectifs. Voilà globalement l'équilibre et la méthode pour réaliser tous ces objectifs.
D'accord. Et du coup, vous avez un peu parlé des différentes façons à travers lesquelles on peut faire du plaidoyer. Justement, aujourd'hui, quelles sont les principales stratégies ou actions de plaidoyer mises en place par les ONG et les acteurs humanitaires pour tenter d'influencer les décideurs politiques et l'opinion publique?
Premièrement, le plaidoyer, c'est un choix conscient, une capacité à le faire et en même temps une méthode. Et donc, il y a plusieurs stratégies, bien sûr, par rapport à votre question. Si je peux les résumer peut-être en trois ou quatre points. Rencontres ciblées avec les décideurs, ministères, diplomates, acteurs médiatiques, économiques et autres. Deuxièmement, notes de position. Écrire des notes de position et briefing basés sur nos analyses de terrain, donc une remontée d'informations, une remontée d'analyses concrètes et bien argumentées, chiffrées, référenciées, etc. Créer aussi des coalitions entre ONG. Elle peut être des coalitions opérationnelles ou de plaidoyer politique pur, comme on l'a fait à Gaza. Nous avons mis en place depuis le début de la crise, un consortium opérationnel entre quatre ou cinq acteurs humanitaires. dans plusieurs domaines, ou comme on l'a fait le 2 octobre, faire une démarche commune avec des décideurs et donc créer cette coalition et peut-être d'autres formes de coalition, hein, donc pas forcément, je peux imaginer donc la publication d'un document commun animé et réalisé par un ensemble d'ONG humanitaires. Donc une coalition d'ONG qui permette de parler d'une seule voix et d'amplifier l'impact, c'est important. Les campagnes publiques, hein, mobilisant médias, réseaux sociaux et parfois des personnalités, comme on l'a fait d'unité internationale depuis le mois d'août dernier, nous avons monté une campagne de plaidoyer, mais sur plusieurs plans. Premièrement, si je peux citer ces plans-là, je pense que c'est l'occasion de parler de ce projet parce que c'était conséquent et important en même temps. Nous avons fait, au fait, une campagne de plaidoyer à cinq voix. Premièrement, nous avons donné la parole aux victimes civiles à Gaza à travers des ateliers de dessin, ce qu'on appelle l'art thérapeutique. Donc, nous avons regroupé des dizaines d'enfants de moins de 15 ans pour justement leur donner la possibilité d'exprimer leur souffrance, exprimer ce qu'ils sont en train de vivre comme guerre sur le terre, sur place, hein, et qui a impacté leur vie en profondeur à travers des axes d'expression accompagnés par des psychologues, des formateurs et des spécialistes dans le domaine aussi de développement personnel. On a pu produire à travers ces ateliers une centaine de dessins d'enfants qui ont tracé en quelque sorte toute la vie quotidienne à Gaza depuis le mois d'octobre 2023. Nous avons créé des expositions mobiles et en même temps, nous avons publié un livre qui rassemble tous ces dessins commentés par des spécialistes, des psychologues et des psychiatres surtout, justement, et les envoyer aux décideurs, les envoyer aux acteurs de la société civile, justement, pour remonter, pour refléter, exprimer et pour mettre cette parole des victimes au centre de nos préoccupations ici, au centre de notre stratégie de communication. L'autre voie ou l'autre outil de communication, c'est donner la parole aux Gazaouis à travers un projet qu'on a appelé Mojo, Mobile Journalisme. Ça veut dire former une vingtaine de jeunes Gazaouis autour de métiers de médias et cinématographie et leur demander de produire des films de court-métrage justement qui reflètent leur vécu quotidien et leur vie quotidienne à Gaza pendant cette guerre. Et le 5 décembre prochain, à Châtelet-Les Halles, nous allons exposer ces 20 films à travers aussi et donner la parole au jury de faire un retour, un regard externe. Et ce sera, on va inviter environ 300 personnes, acteurs associatifs, grands donateurs, médias, acteurs humanitaires, acteurs politiques élus, justement pour visualiser avec nous, voir avec nous ces films-là. Et c'est une manière d'exprimer la réalité, faire parler la réalité gazaoui à travers les victimes, à travers ces jeunes. Et donc, l'autre élément dans cette campagne, parler de notre table ronde autour de droit international humanitaire, effondrement ou sursaut qu'on a organisé au CNAM. Et bien sûr, d'autres campagnes dans la presse sur le monde, Courrier International, le Libération Society, par exemple, nous avons publié des publicités sur trois axes. La situation des journalistes à Gaza pendant la guerre, sachant que nous avons perdu plus de 250 journalistes dans 2 ans. C'est énorme comme chiffre. Nous avons aussi publié une publicité sur la situation des médecins dans un contexte de guerre, avec un slogan à l'hôpital, il n'y a pas que, y a pas, même les médecins meurent. Vous voyez, donc pour illustrer un peu le ciblage qu'on a eu dernièrement, sachant que nous avons perdu des centaines de médecins dans cette guerre, et bien sûr la crise alimentaire, la crise humanitaire que les Gazaouis subissent actuellement avec le non-accès de l'aide humanitaire et qui est contradictoire avec les principes internationaux, le droit international humanitaire. Et donc voilà, à travers ces cinq outils de communication, de plaidoyer, nous avons essayé de toucher pratiquement toutes les catégories de la société française et internationale. À travers cela, nous voulons dire une chose. Premièrement, nous devons agir pour protéger les civils pendant les guerres et pendant les conflits. Et on l'a fait en donnant la parole à ces victimes en direct. Voilà, je pense que c'est une manière très originale pour justement exprimer cette réalité et faire la pression au niveau de l'opinion publique pour justement sensibiliser le grand public autour de cette crise humanitaire majeure. Voilà, donc il y a cette méthode. Je peux citer aussi les rapports, la publication des rapports, des enquêtes et documentations visuelles qui donnent de la force à nos arguments, sans oublier bien sûr les pressions juridiques. Je pense que les hommes et les femmes de droit, qui sont spécialisés dans le domaine de juridique et de droit, ont toute leur place dans la sensibilisation et dans ces campagnes de plaidoyer. Donc à Dignité, nous combinons plusieurs dimensions, plusieurs outils. Nous combinons stratégie institutionnelle et mobilisation citoyenne. C'est ce double niveau qui crée pour nous, un rapport de force positif.
Bah, merci encore une fois pour cette réponse bien détaillée. D'ailleurs, j'ai pu prendre connaissance de votre campagne sur Gaza que j'ai trouvée vraiment très pertinente et impactante avec le choix des mots et le choix des images. Vous avez aussi parlé un moment du rôle voilà, des décideurs politiques et des histoires de lobby. Et justement, face à ces pressions politiques ou alors aux tentatives de décrédibilisation, comment les ONG, les acteurs humanitaires s'organisent pour préserver leur indépendance et surtout leur crédibilité?
C'est une très très belle question parce qu'on ne vit pas. En fait, rien n'est facile. Parler de plaidoyer, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une responsabilité et une capacité. Sinon, ça sera difficile de le faire parce qu'on n'est pas seul. On est dans une relation basée sur des rapports de force. Mais on essaie, comme je l'ai dit tout à l'heure, on essaie de le faire d'une manière. J'allais dire avec une force positive. L'indépendance comme principe, comme valeur, n'est pas un slogan, parce que Dignité internationale est animée par des valeurs. Et parmi ces valeurs, c'est l'indépendance, c'est la neutralité, c'est la construction de la paix, c'est la solidarité et la générosité, l'impartialité. Et donc, pour nous, l'indépendance n'est pas juste un slogan ou juste un principe dans lequel on décore notre action, mais c'est une discipline organisationnelle. Il faut qu'elle soit vraiment ancrée dans notre manière d'être et notre manière de faire l'humanitaire en général et le plaidoyer comme une expression importante dans cette action pour la préserver, bien sûr, et dans la continuité. C'est ça le but. Donc, si je peux résumer votre question, les ONG, dont Dignité internationale, doivent premièrement, pour se préserver, hein, diversifier leur financement. C'est le nerf de la guerre. Hein. Donc, diversifier les financements pour éviter toute dépendance politique. Dignité internationale, depuis sa création, a su être une ONG indépendante sur le plan financier parce que nous avons construit notre stratégie propre pour avoir notre propre capacité financière. Bien sûr, basée sur une relation donateur très diversifiée. Nous avons une base de données qui dépasse les 100 000 donateurs, des donateurs privés, particuliers comme vous, comme moi, comme d'autres. Sensibles à nos engagements, sensibles à nos projets, sensibles à nos interventions dans les pays là où il y a des besoins. Et bien sûr, nous restons ouverts sur d'autres formes de financement, mais en gardant toujours l'indépendance. Et je pense que cette stratégie nous a donné raison parce que les dernières décisions qui ont privé les acteurs humanitaires d'une source de financement a juste paralysé au moins entre 40 et 55% de leur capacité. Et là, je parle de la diminution drastique de l'aide publique. C'est des décisions qui ont été prises par des grands décideurs politiques au niveau international. Et là, je vise la décision de Trump, par exemple, et d'autres bailleurs de fonds. J'ai rencontré pas mal d'acteurs humanitaires en Afrique, même en France, où pas mal d'ONG ont été dans l'obligation, obligés de faire un plan social pour licencier des salariés ou réduire leurs actions humanitaires. Vous imaginez l'impact sur les bénéficiaires dans les pays d'intervention. Et je souhaite exprimer ma solidarité avec tous les ONG humanitaires qui ont subi les conséquences de cette réduction de financement. Donc je parle premièrement de diversification des financements. Deuxièmement, publier des informations financières et méthodologiques transparentes. Ça nous préserve dans notre travail justement pour éviter cette pression et préserver cette indépendance. Fonder chaque prise de position sur des données véritables et vérifiables et réprochables. Pas faire n'importe quoi, ne pas publier des choses qui n'ont aucun lien avec la réalité, avec la vérité des choses. Ça veut dire être dans l'éthique, dans la manière de faire le plaidoyer, se protéger juridiquement contre les campagnes hostiles parce qu'on n'est pas à l'abri. Et donc nous devons être armés et, j'allais dire, renforcés par des experts dans le domaine juridique, des avocats, des juristes, etc. S'appuyer sur des réseaux d'ONG, des plateformes, pour résister collectivement aux pressions, former les équipes à la gestion de la désinformation, des fake news ou les déstabilisations, les campagnes de déstabilisation, etc. Donc, à dignité internationale, nous assumons une parole, premièrement indépendante, parfois qui dérange, mais toujours rigoureuse et centrée sur les droits humains. La dignité humaine est la pierre angulaire qui nous anime, c'est notre boussole, justement, pour faire tout ce travail humanitaire de sensibilisation aussi auprès des grands publics. Nous considérons, franchement, que tous les acteurs comme des partenaires et pas comme des ennemis, loin de ça, au contraire, nous sommes dans le devoir de sensibiliser, d'informer et dialoguer dans le respect mutuel et que chacun joue son rôle. Nous sommes responsables devant la loi, devant les bénéficiaires, devant les donateurs et un homme public, il ne peut être que responsable parce qu'il est là au principe pour l'intérêt général. Et on doit rappeler cette chose-là mutuellement, dans le respect mutuel, bien sûr, loin des rapports de force négatifs. Au contraire, nous devons être dans une relation basée sur des rapports de force positifs.
Et pour rebondir du coup sur ce que vous venez de dire, aujourd'hui, quels sont les défis et les obstacles majeurs que vous allez rencontrer justement dans ces actions de plaidoyer, tant sur le terrain que sur le plan institutionnel ou juridique par exemple?
Tout à l'heure, j'ai parlé de la réduction drastique de l'aide publique, hein, donc humanitaire, à l'égard des ONG humanitaires. C'est un défi majeur, ce que j'appelle la réduction de l'espace humanitaire, restrictions administratives, entraves, surveillance, réduction des subventions, etc. L'insécurité croissante pour les travailleurs humanitaires, c'est un autre défi. Qui entrave, qui impacte négativement notre travail, la criminalisation de l'action humanitaire dans certains contextes, les cyberattaques, les fake news, l'impact géopolitique, c'est un défi majeur aussi, hein. Donc instrumentalisation de l'aide, propagande, manipulation, nous ne sommes pas à l'abri, hein. Donc on voit ça par exemple à Gaza, où nous avons mis en place un système humanitaire, mais vraiment instrumentalisé pour des fins sécuritaires, en utilisant la famine comme un outil de pression et comme un outil de guerre au nom de l'humanitaire. Là, je fais allusion à cette fondation qui a été créée justement pour distribuer des aides aux Gazaouis, alors que n'a aucun lien ni avec les valeurs humanitaires, ni avec l'éthique humanitaire, ni avec les pratiques qu'on connaît de droit international humanitaire. L'impunité persistante des violations du droit, je viens de le dire, donc international humanitaire, c'est un sujet mais très important parce que ça devient très très flagrant. Où, par exemple, on met en cause une agence onusienne qui est censée protéger les réfugiés palestiniens depuis 1948 par de l'UNRWA et l'a dépossédé de sa légitimité en tant qu'acteur majeur. Voilà, par exemple. Ou faire la sélection d'un acteur à un autre parce que on est plus collaboratif avec les autorités politiques et sécuritaires ou autres. Il faut que l'humanitaire soit neutre, soit impartial en même temps et indépendante de toute manœuvre politique parce que tout simplement elle doit agir en toute neutralité pour justement soulager la souffrance, quelle que soit la souffrance, quelles que soient les origines des victimes d'ailleurs. Et aussi la polarisation médiatique qui rend difficile la diffusion de l'information nuancée et l'accès aux médias, l'accès aux... Et là, je parle de cette sélection. Des fois, on trouve les mêmes acteurs sur les plateaux. Il n'y a pas une diversification, une ouverture vers tous les acteurs humanitaires qui travaillent sur le terrain. Alors que les médias est un droit, doit être accessible à tous les acteurs, à ceux qui portent la parole, qui peuvent témoigner réellement et concrètement et qui sont présents sur le terrain. Je parle aussi du système bancaire. Vous savez, le virement. Dans les pays d'intervention, on se retrouve devant une réalité, mais amère, c'est qu'il y a une double, voire triple liste des pays dans laquelle nous avons le droit ou non de faire les virements. Ce qu'ils appellent dans le monde des banques, la liste grise, la liste noire et les autres. Et donc, des fois, alors qu'on fait un mélange terrible entre les positions politiques étatiques et le fait d'avoir l'accès libre aux populations qui souffrent des guerres ou des catastrophes naturelles. On ne peut pas ne pas aider des victimes dans des pays qui ont des conflits avec d'autres au nom d'un positionnement politique. Il faut que l'aide humanitaire soit protégée, neutre et accompagnée pour établir et pour qu'elle fasse son travail en toute transparence. Et nous avons normalement les outils qu'il faut pour rendre cette action humanitaire transparente, protégée et crédible. Donc, ces défis nécessitent un plaidoyer robuste, une coordination renforcée et des ONG capables de résister aux pressions sans renoncer à leurs principes ou leurs valeurs.
Merci une nouvelle fois pour ces réponses bien détaillées. Et c'est vrai qu'on a pu le voir, ces défis-là auxquels sont confrontées les ONG à travers la situation malheureusement qu'il y a à Gaza. Et pour terminer, Wahid, selon vous, comment les citoyens, parce qu'on a parlé des décideurs politiques, des acteurs humanitaires, mais comment les citoyens peuvent soutenir efficacement le plaidoyer qui est mené par les ONG?
Moi, je pense que les ONG, c'est une expression citoyenne en soi. Donc, elle démarre d'un ancrage citoyen, parce qu'on représente nos citoyens. Sinon, on perd toute légitimité. Et donc, de par cette définition, bien sûr, quand on parle des citoyens, on parle des donateurs, on parle des bénévoles, on parle de tous les soutiens qu'on peut avoir et imaginer pour justement renforcer notre travail humanitaire pur, opérationnel et de plaidoyer, parce que ça fait partie. On ne peut pas dissocier le plaidoyer de l'action humanitaire dans sa dimension opérationnelle. Et donc, les citoyens sont aujourd'hui des acteurs clés. Ils peuvent, premièrement, relayer des informations fiables et combattre la désinformation, participer aux campagnes hein, menées par ces acteurs, signer et partager des pétitions, comme d'ailleurs on l'a fait, je l'ai oublié de le citer tout à l'heure, les 5 voix de notre campagne de plaidoyer pour Gaza. Nous avons lancé, par exemple, une opération pour signer, pour avoir 100 000 signatures. Il est remonté au niveau du Sénat, Et c'est important parce que c'est une forme de témoignage, c'est une forme de soutien aussi à nos principes et à nos actions. Donc, interpeller leurs élus, par exemple, les citoyens, ils ont tout le droit et la légitimité d'interpeller leurs parlementaires, leurs élus au niveau local, départemental, régional et même national, hein, pour exiger des positions cohérentes avec le droit international humanitaire. On ne vit pas dans la jungle, dans un monde violent, sauvage. Nous avons des lois, nous avons des droits et des lois qui régulent et qui gèrent le monde. Donc nous devons revenir vers ces textes qui justement protègent tout le monde. Soutenir financièrement les organisations humanitaires et cette restriction. Et j'allais dire même cette crise économique, nous avons besoin de nos donateurs, parce que c'est grâce à leur générosité et grâce à leur solidarité qu'on mène nos actions sur le terrain. Ces millions de colis alimentaires qu'on distribue, ces orphelins qu'on parraine, ces soins qu'on donne à des victimes, des blessés partout dans le monde, à Gaza ou au Soudan ou dans d'autres zones du monde, en fait, est dû à cette générosité de nos donateurs. Donc ce soutien financier est vital pour la pérennisation et pour le travail qu'on souhaite mener sur le terrain. Autre chose, c'est de s'engager bénévolement ou rejoindre des groupes locaux de plaidoyer ou des groupes qui réalisent avec nous ces projets sociaux, humanitaires. Et en l'occurrence, ce projet de plaidoyer, de sensibilisation. Vous savez, les citoyens, c'est les ambassadeurs en vérité. Je parle des femmes et des hommes, des jeunes qui sont là pour porter cette parole, pour justement diffuser ces campagnes dans leur réseau, dans leur milieu scolaire, universitaire ou à travers leurs associations culturelles, sportives et autres. Donc, nous constituons une chaîne de solidarité qui commence par la présentation d'un projet, par la donation, par la communication et par la diffusion de toutes ces actions, ces valeurs dans la société. Donc, en somme, la mobilisation citoyenne crée la pression politique indispensable. Bien sûr, pour transformer les constats humanitaires en décisions concrètes. Vous savez, donc, en conséquence, le citoyen a un rôle vital dans la construction des décisions demandées par les actions de plaidoyer des ONG humanitaires. Il est au milieu, au cœur de cette construction. Et donc, j'invite et je saisis cette opportunité pour lancer un appel à tous les citoyens, à tous les bénévoles, à tous les donateurs de dignité internationale de participer, de nous soutenir, de soutenir tout ce travail, parce que franchement, ce n'est pas facile de le mener seul. Un simple geste peut transformer radicalement et donner l'énergie à ce travail très dur à mener, mais il sera facile et réalisable en faisant un travail collectif.
Merci beaucoup pour cette belle conclusion et pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui veulent en savoir un peu plus sur vos actions de plaidoyer. Elles pourront directement le découvrir sur vos sites internet et sur vos réseaux sociaux. Wahed, une nouvelle fois, merci beaucoup d'avoir pris de votre temps pour parler de ce sujet important qu'est le plaidoyer. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. S'il vous a plu, rendez-vous sur les différentes plateformes d'écoute ainsi que sur le site Paroles d'Humanitaire pour en découvrir d'autres. Et n'hésitez pas à soutenir cette initiative en la partageant autour de vous. Retrouvez l'ensemble des notes de ce podcast sous forme d'articles sur le site Paroles d'Humanitaire. Pour aller plus loin, si vous souhaitez en savoir plus sur l'invité de cet épisode, n'hésitez pas à consulter les liens mis en avant dans l'article. On se donne rendez-vous au prochain épisode. Belle journée à vous, où que vous soyez.